Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
L'Espagne propose donc d'accueillir l'Aquarius, ce bateau d'une ONG. Un bateau qui a embarqué 629 migrants à son bord dans le port de Valence. Bonjour Thibaut Fleury-Grave, vous êtes professeur de droit international à l'Université de Rennes et auteur du manuel de droit international public. L'Italie et Malte avaient-ils le droit de refuser ce navire ?
Bonjour Guillaume Erner. Le drame dans cette affaire, car c'est un drame, y compris d'ailleurs au sens presque théâtral du terme, c'est que la réponse est compliquée. La réponse est compliquée à trouver. La mer Méditerranée, c'est une mer au sens géographique, ce sont des mers au sens juridique. Les compétences des États sont assez diverses en fonction des zones. Et la première question à se poser est de savoir où se trouve ce navire, où il se trouvait. La principale convention à laquelle on peut penser ici, c'est la convention sur la recherche et le sauvetage, qui est une convention de 1979, qui oblige les États à définir des zones de recherche et de sauvetage dans lesquelles les États vont être responsables de ces opérations. Il se trouve que en Méditerranée, ce découpage existe, qu'il est assez complexe, notamment parce qu'à certains endroits, l'Italie et Malte ont une zone commune. Et d'après les informations que l'on a pu trouver, l'Aquarius s'est trouvé à un moment donné précisément dans cette zone, si bien que les États se sont renvoyés la balle sans véritablement violer cette convention précisément.
Mais alors, ce navire a continué à avancer et là, pour le coup, il n'était plus dans cette zone à compétence partagée. Les choses s'étaient éclaircies et à ce moment-là, un État a-t-il le droit de refuser asile à un bateau ? Il y avait une question donc de capacité de vivre, une autonomie donc limitée. Par conséquent, il y avait péril sur ce navire.
Voilà, la même convention prévoit que l'État qui est responsable, parce que le navire se trouve dans la zone, doit fournir un lieu sûr à ce navire. Mais la convention précise que ce lieu sûr peut être un navire, c'est-à-dire qu'il faut secourir les personnes qui sont en détresse en les mettant au besoin sur un navire. Tant que les vivres sont suffisants, tant que les personnes peuvent être en sécurité sur ce navire, le droit international n'est pas violé. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, la question devient critique puisque les vivres ne vont pas suffire. Et là, le lieu sûr n'est plus à disposition des personnes qui étaient en détresse et se pose donc la question de l'accueil dans un port.
Alors, l'accueil dans un port, il a été donc proposé par l'Espagne. L'Espagne n'avait pas d'obligation en la matière.
L'Espagne n'avait aucune obligation en la matière et d'ailleurs d'après les dernières informations que j'ai pu voir, l'Espagne est beaucoup trop loin de l'endroit où se trouve actuellement l'Aquarius et le temps de trajet serait trop long, ne permettrait pas aux personnes de vivre dans des conditions satisfaisantes.
Alors qu'est-ce qui pourrait se passer du coup ? Qu'est-ce que l'on peut imaginer dans ces conditions-là ?
Les condamnations de la communauté internationale ont été assez fermes mais pas très nombreuses. Le silence de la France est assez éloquent à cet égard.
Oui, il semblerait que la France n'ait rien proposé pour accueillir ce navire, sauf erreur de ma part.
Je crois qu'elle n'a même rien dit. J'ai cherché un petit peu avant de venir, je n'ai trouvé aucune déclaration. Peut-être que je n'ai pas cherché où il fallait, mais en tout cas, les déclarations n'ont pas été...
Je suis comme vous, je n'ai rien trouvé à ce sujet.
La commissaire européenne en charge de ces questions a appelé les États, et c'est d'ailleurs assez intéressant, à accueillir ce bateau, quitte à déterminer ensuite la question des responsabilités, ce qui montre bien qu'il y a une difficulté juridique et que finalement, on ne peut pas établir rapidement qui est responsable, et c'est toute la difficulté. Donc ce qu'il peut se passer, c'est le bon vouloir d'un État, c'est le retour à la raison de l'Italie ou de Malte.
Mais alors, ce que l'on ne comprend pas, Thibaut Fleury-Grave, vous qui êtes professeur de droit international, ce que l'on ne comprend pas, c'est la raison pour laquelle ces migrants n'ont pas pu débarquer dans un endroit, quitte ensuite à ce qu'il y ait une négociation pour savoir quel pays pourrait les accueillir, puisqu'il y a donc deux types d'urgences. La première urgence, c'est un bateau qui n'a pas beaucoup de vivres et qui, de surcroît, va devoir faire face à une mer agitée.
Ces bateaux, vous savez, sont devenus malheureusement des cactus que les États n'osent pas toucher parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils mettront le doigt, c'est-à-dire leur souveraineté, leur juridiction sur ces bateaux, un certain nombre de conséquences juridiques et d'obligations juridiques vont s'en suivre. Des obligations au titre notamment de la Convention européenne des droits de l'homme. Et le droit international tel qu'il existe n'a pas été pensé pour ce genre de situation. Il n'a pas été créé du tout, que ce soit le droit international général de la mer dans la convention de Montego Bay en 1982, que ce soit même cette convention sur la recherche et le sauvetage, que ce soit la convention de 51 sur les réfugiés, ils n'ont pas été pensés pour des arrivées régulières, fréquentes, de bateaux avec plusieurs centaines de personnes. Si bien qu'on ne peut que déplorer un manque de droit international, de droit européen, surtout parce que s'il y a une faillite, c'est la faillite ici du droit de l'UE.
Mais alors justement, est-ce que ça signifie, Thibault Fleury-Graff, que s'ils avaient été débarqués en Italie, ils auraient été dublinés, comme on dit aujourd'hui en Italie, c'est-à-dire que l'Italie aurait été finalement responsable non seulement de ces migrants, mais aussi de mettre en branle la procédure visant à les accueillir au titre du droit d'asile.
Exactement, c'est tout le problème de ce règlement, c'est ce qui explique. Et on peut le comprendre, on peut ne pas être d'accord avec la politique qui est menée actuellement en Italie. On peut aussi comprendre que l'Italie soit fatiguée de porter seule avec la Grèce essentiellement la responsabilité de la demande d'asile, puisqu'en effet, si ces personnes débarquent en Italie, l'Italie est le pays de ce qu'on appelle de première entrée, devient responsable de tout le processus d'asile de ces 600 personnes si elles font une demande d'asile, ce qui est le cas le plus probable. Et quand bien ces personnes parviendraient à revenir à aller en France ou en Allemagne, elle serait renvoyée en Italie pour que la demande d'asile y prospère ou non.
Et les pays d'où partent ces migrants? Alors là, il y a une polémique pour savoir d'où ils viennent véritablement. Je ne sais pas si vous avez des informations à ce sujet, mais y a-t-il une obligation de ces pays? Y a-t-il une obligation de la Libye?
Il y a peu d'obligations de ces pays et on parlait du silence de la France, on peut parler aussi du silence des États dont ces personnes sont les ressortissants. Si des Français se trouvaient en péril sur un navire, on peut imaginer que la France aurait une réaction pour protéger ses ressortissants. Ce n'est pas le cas de ces personnes qui sont passées par la Libye mais dont peu vraisemblablement sont libyennes, qui sont des personnes qui arrivent de la Corne de l'Afrique généralement, notamment d'États comme le Soudan. Et qui vivent l'enfer en Libye. La responsabilité de la Libye n'intervient pas à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce n'est pas à la Libye de reprendre ces personnes, de les accueillir dans ses ports, et heureusement, parce qu'on sait les traitements que ces personnes y subissent.
Donc on voit effectivement le vide du droit international à ce sujet. Merci beaucoup Thibault Fleury-Graff, je rappelle que vous êtes professeur de droit international à Rennes et vous avez notamment publié le manuel de droit international public aux presses universitaires de France.